France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, deux femmes qui écrivent sur leur père, des figures charismatiques, imposantes, parfois écrasantes, qui leur ont légué l'amour des lettres. Nous interrogerons la filiation entre héritage intime et construction mythique.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Nous recevrons d'abord Vanessa Schneider qui publie La peau dure chez Flammarion. Son livre s'ouvre sur une quête entamée après la mort de son père, Michel Schneider, figure aux multiples casquettes. L'autrice fouille des dizaines de documents, ouvre les cartons du passé et remonte la lignée des blessures et des secrets. La peau dure dénoue l'emprise d'un homme qui fut un père fascinant et redoutable pour n'en garder que le plus bel héritage, je cite, le goût des mots, les lire et les écrire. Et puis nous accueillerons Dominique Bonnat de l'Académie française qui publie Le roi Arthur chez Gallimard. Ici, le père est à la fois un conteur et un roi. Arthur Comte, c'est son nom, ça ne s'invente pas. Écrivain et homme politique catalan dont la fille restitue la voix et la tendresse dans un livre entre mémoire et légende. Sous sa plume, la maison familiale devient château, le père un souverain du verbe et la littérature un lien qui survit à tout, même à la mort. Deux récits d'héritage et d'écriture, de lettres d'amour et de réparation. Chez Vanessa Schneider, la douleur de l'affranchissement. Chez Dominique Bonnat, la splendeur de la transmission. Deux manières de dire qu'écrire sur son père, c'est un peu écrire pour se retrouver soi. On parlera aussi du merveilleux parce que j'en ai envie. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Dominique Bonnat, Vanessa Schneider, bonjour.
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 Vous avez toutes les deux des pères imposants, intellectuels. Vous, Vanessa Schneider, votre père, Michel Schneider, était psychanalyste, essayiste, haut fonctionnaire, musicien, immense lecteur. Vous, Dominique Bonnat, votre père, Arthur Comte, était écrivain, homme politique, historien, conteur infatigable, amoureux du verbe. Si vous deviez définir votre père en un mot, c'est difficile, l'une l'autre, lequel choisiriez-vous, Vanessa Schneider ?
Moi, je dirais l'ours, parce que c'était comme ça qu'il se définissait. Et c'est un mot à plusieurs sens, qui est à la fois doux et qui peut être terrifiant également.
Dominique Bonnat pourrait choisir le même mot. Mais...
Oui, je pourrais choisir curieusement le même mot, parce que Arthur, notre père, nous disait toujours, ça veut dire en langage celtique, le roi des ours. Et ça lui allait bien finalement aussi. Donc c'était un père qui pouvait être très silencieux, parfois un peu renfrogné, mais qui sortait quand même de la caverne, de la grotte.
On parlera de ce qu'ils vous ont transmis, mais d'abord, je voulais connaître le point de départ de vos livres. Chez vous, Vanessa Schneider, la Genèse, c'est une phrase qu'il a prononcée à la fin de sa vie.
Oui, c'est une phrase. Alors, bon, à vrai dire, je savais quand même depuis longtemps que mon père était un personnage romanesque, que j'avais en face de moi un personnage un peu hors norme, qui pouvait être sujet d'écriture, puisque j'écrivais déjà sur ma famille. Mais en effet, il y a une quinzaine d'années, alors que nous étions adultes, et lui et moi, lors d'une conversation qu'on avait un peu générale sur la politique, sur les générations, il avait eu cette phrase, qui était une phrase de psychanalyste et d'un homme qui aimait les mots et les bons mots. Et il a dit cette phrase, « Nous sommes la première génération, en parlant de la sienne, à avoir tué à la fois le père et le fils. » Je me souviens être restée totalement sans voix, parce que cette phrase, elle résumait à la fois « tuer le père », bon bah on sait, c'est un des fondements de la psychanalyse, mais « tuer le fils » et dire ça à sa fille, et assumer en fait, quelque part, de faire partie d'une génération un peu monstrueuse, celle des baby-boomers, qui est assez décriée aujourd'hui, mais à laquelle faisait vraiment partie mon père, de l'assumer à ce point-là, d'avoir voulu être dominant, écrasant, prendre toute la place, évidemment la place des pères, mais aussi ceux de ses propres enfants. Je trouvais qu'il y avait à la fois génie, malice, et puis matière à explorer tout ça, oui.
Vous avez dit ours, mais quand vous dites ça, on pense ogre.
Oui, oui, j'aurais pu dire la figure de l'ogre. Je parlais d'ours parce que lui-même se décrivait comme un ours. Il racontait aussi beaucoup d'histoires, comme le père de Dominique Bonnat. Et lui, c'était des histoires qu'il inventait avec des personnages d'ours. Mais je pense que c'était une façon pour lui d'apprivoiser, de donner une plus jolie image de l'ogre qu'il savait être en lui. Donc c'est toujours plus mignon d'être un ours. Ouais.
Chez vous, Dominique Bonnat, on sent que c'est la tendresse qui l'emporte. Vous écrivez « De toute ma sensibilité, de toute mon histoire, je suis redevable à ceux qui m'ont élevé et guidé dans l'enfance. » Est-ce que ce livre, c'était une manière de remercier aussi votre père ?
Sans aucun doute. En fait, il a fallu toutes ces années pour que j'arrive à écrire sur à la fois mon père, mais aussi ma famille. C'est uniquement ce passage des ans qui fait que j'ai voulu retourner, non pas vers l'enfance par nostalgie, il n'y a pas de nostalgie dans ce livre, mais plutôt j'ai essayé de retrouver la petite fille que j'ai pu être. Et la petite fille que j'ai finalement perdue en cours de route. Je voulais la retrouver, cette petite fille. Et en cherchant la petite fille, eh bien, c'est le père qui s'est tout de suite profilé à l'arrière-plan. C'est la voix du père aussi qui m'a animée pendant toute la rédaction de ce livre. Parce que finalement, l'enfance est liée à des récits, à des contes, à des chansons, à des poèmes, à tout un climat d'enchantement. Qui est rare quand même dans la vie, mais qui était constitutif de ces jeunes années. Donc j'ai essayé de retrouver tout ça. Je voulais vraiment, non pas jeter mon regard d'adulte sur l'homme qui avait été mon père, non pas écrire sa biographie, ça il n'en était pas question, mais plutôt trouver le regard de la petite fille, ce regard émerveillé sur le père qui, pendant tant d'années, finalement a guidé son imaginaire.
Et comment vous avez fait concrètement pour retrouver ce regard ? Vous dites que vous aviez perdu la petite fille en cours de route. Est-ce que vous l'aviez vraiment perdue ?
Alors, je croyais peut-être l'avoir perdue, mais finalement, j'ai retrouvé assez facilement. La manière la plus facile pour moi, c'était de recréer le paysage. C'est d'abord le paysage que j'ai recréé en retournant dans le sud, qui est ma vraie patrie, ce sud catalan où j'ai grandi. Et c'est en campant le paysage, en mettant des vignes, en retrouvant l'air pur, purifié par la tramontane. Et puis le village paternel, qui est un village particulier, puisqu'il est à l'ombre d'un château. Mais c'est un château de couleur rose, de la même couleur que la terre qui l'entoure. Ce paysage m'a aidé finalement à retrouver le climat, les parfums, les odeurs, la musique aussi de cette région catalane à laquelle je suis attachée.
Ce qui est intéressant dans vos livres à chacune, c'est comment vos pères aussi se sont positionnés et comment vous vous positionnez aujourd'hui vis-à-vis d'eux dans votre rapport aux lettres. On en parle dans un instant, mais d'abord on écoute Sébastien Tellier, Naïf de cœur.
Mais sans bas, tendre et rêveur.
rebienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de l'académicienne Dominique Bonnat et de la romancière Vanessa Schneider. Vous préférez quel terme d'ailleurs, Dominique Bonnat ? Romancière, autrice, écrivain, écrivaine ?
Romancière, c'est le mot qui me fait le plus rêver.
Oui, moi aussi.
Mais autrement, vous pouvez dire autrice, voilà. Académicienne, un peu après quand même.
Oui, voilà. Et vous, Vanessa Schneider ?
Moi aussi. Autrice, je trouve ça moins... C'est moins précis aussi, autrice. Oui. C'est plus général. On peut être auteur de toutes sortes de choses.
Et je posais la question à Vanessa Schneider parce que vous, votre père, disait écrivante pour les femmes qui écrivent en citant Antoine Forget, qui qualifiait la femme qui écrit de la pire sous-espèce.
Oui, il y avait, il y avait chez mon père une assez profonde misogynie, même si... c'était assez paradoxal parce qu'il adorait les femmes, mais il adorait les séduire. Il n'aurait pas pu se passer des femmes dans sa vie. C'était extrêmement important. Et en même temps, il était très rabaissant envers les femmes. À vrai dire, c'est ma mère qui m'a mis sur la piste de cette phrase, puisque c'était un livre que j'avais lu de mon père au moment où il était sorti, il y a une vingtaine d'années, évidemment, j'avais pas, ou même il y a 25 ans, j'avais pas été capable de la relever à l'époque. Et ma mère m'a dit, puisque tu écris sur ton père, va voir ce qu'il disait des femmes qui écrivent dans son livre, puisque c'était, et m'a donné le titre du livre, Je crains de lui parler la nuit. Parce que ce sujet de l'écriture a été, je pense, vraiment le seul véritable sujet d'affrontement entre mon père et moi, puisqu'il a abouti à une brouille de plusieurs années, une brouille qui a été extrêmement douloureuse et terrible pour moi, et pour lui aussi certainement. Et en effet, dans ce livre, il a une sorte de double littéraire, Antoine Forget, à qui il fait dire beaucoup de choses qu'il ne dit pas lui-même, et qui dit il n'y a pas pire, en effet, qu'une femme qui écrit, une femme écrivante. Et je me suis dit, si j'avais su lire cette phrase à l'époque, j'aurais su ce qui allait m'attendre. Je me suis glissée dans l'écriture en toute naïveté, la plume au vent, et je me suis pris un retour de bâton assez sévère.
Oui, mais ça ne vient pas de rien non plus, le fait d'écrire Vanessa Schneider.
Non, ça ne vient pas de rien, parce que l'écriture, ça fait évidemment partie des héritages, mais qu'on peut même pas mesurer. Moi, j'ai eu la chance de vivre, comme Dominique Bonnat, entourée de livres, avec des livres. C'est une chance inouïe. Il n'y a pas plus grand luxe que de vivre dans une maison où on entend de la musique, où il y a des livres, où il y a des journaux, où le savoir est accessible très facilement.
Et pourtant, vous n'aviez pas des pères, l'une comme l'autre, qui vous offraient particulièrement des livres. Dominique Bonnat, vous racontez dans votre roman, roman-récit d'ailleurs, je ne sais pas totalement comment le qualifier, vous racontez que votre père était quand même souvent enfermé et que, certes, il lisait beaucoup, mais ce n'est pas lui qui vous offrait des livres.
Oui, curieusement, ce père écrivain n'a pas du tout guidé mes lectures. Il laissait ma mère, à cette époque, les enfants ne choisissaient pas vraiment leurs livres. Dans les années 60, 50, 60, on vous donnait des livres. Et c'était ma mère qui choisissait Le Club des Cinq, Fantomette, enfin je suis de cette génération-là. Ce sont vraiment les tout premiers livres que j'ai eus entre les mains. Et mon père était comme indifférent. Une seule fois, il a insisté, vraiment insisté, presque lourdement, pour que je lise La Chartreuse de Parme. Et il a bien fait, parce que c'est un livre qui reste pour moi un émerveillement. Mais autrement, pas du tout. Et il n'a pas non plus donné des conseils de lecture. Et c'est pour ça que j'écoute avec beaucoup d'attention ce que dit Vanessa Schneider, parce que je pense que ça doit être infiniment douloureux de sentir ce père qui se fâche, parce qu'on se donne entièrement soi-même à cette passion, cette même passion qui est la sienne. Et justement, de mon côté, j'ai eu cette chance que mon père, au contraire, n'exerce nullement un rôle de censeur, ni même de conseiller. Il était heureux, finalement, que je puisse écrire. Je crois qu'il devait lire un peu distraitement mes livres.
Et vous aussi, avec les siens.
Alors, moi, je lis très peu les livres de mon père. Je ne les ai, pour ainsi dire, pas lus, parce qu'il y a comme une impudeur, vous voyez, à lire. Je pense que peut-être Vanessa éprouve la même même chose, je ne sais pas. Moi, pour moi, lire les livres de mon père, c'est indécent. Je me sens mal à l'aise. Je le cherche, lui, au lieu de m'abandonner complètement à la découverte des pages. Et c'est, voilà. Mais lui, il lisait quand même mes livres. Il lisait mes livres et il avait une phrase formidable. J'ai retenu la leçon pour si mes enfants écrivaient un jour. Il me disait toujours « Ah, c'est très bien !» Et c'est tout. Et selon le ton de la voix, je savais si c'était vraiment très bien, un peu moins bien. Donc, ça s'est limité à ça, le dialogue sur la littérature avec mon père. Mais ça m'a laissé une liberté et j'ai aucune culpabilité.
Vanessa Schneider, vous, votre père a quand même reconnu votre talent au moment de la sortie du livre sur Maria Schneider.
Oui, ça a été très, très tardif, mais alors, nous, pour le coup, c'était un sujet qui nous liait énormément dans les conversations. Je pense que des premiers livres que j'ai lus, c'est vraiment mon père qui littéralement me les a mis dans les mains, et puis il en parlait avec passion, il donnait envie de lire les livres, c'était pas... quand il en parlait, on avait envie de s'y mettre, donc j'ai lu énormément, j'ai découvert énormément d'auteurs grâce à mon père. Et puis après, avec le temps, c'est moi qui lui en ai fait découvrir d'autres, donc ça a été très joli. Ça, cet échange à travers les
livres. Et même après sa mort.
Les livres, bien sûr.
Il y a une transmission de livres.
Puisque... Mais c'est vrai que c'était, en fait, quand je suis passée à l'acte d'écrire, pas des articles en tant que journaliste, qui était une profession qui pour laquelle il avait assez peu de respect, et donc là, ça ne marchait pas, je ne marchais pas sur ces plates-bandes, entre guillemets. Quand j'ai publié mon premier livre, là, c'était pas tant le contenu, c'était le contenu n'avait aucune espèce d'importance, c'était le fait de, d'aller vraiment sur son terrain. Il s'est senti concurrencé, menacé. Il me l'a même dit dans des moments très paroxystiques. Il m'a dit tu veux me tuer. Pourquoi tu écris comme moi? Pourquoi il a dit à mon compagnon mais pourquoi jamais une fille n'a écrit après son père? Ce qui était fou, fou et faux à la fois. Il pouvait dire des phrases comme ça. Il a dit un ami qui me l'a répété plus tard après le livre. Donc cette phrase ne figure pas dans le livre. Un jour, il vient voir cet ami et il lui dit ma fille m'a encore fait un livre dans le dos. Donc ça allait quand même très très loin, et donc c'était vécu comme une concurrence terrible, d'autant plus terrible que pour moi, je pensais qu'il n'y avait rien qui puisse lui faire plus plaisir. Ça a été très dur, et il a fini après une brouille par me donner ce brevet d'écrivain auquel vous faisiez allusion dans une lettre très détaillée. Ça m'a jamais totalement convaincue. C'est-à-dire que je n'ai jamais su si c'était si la volonté de réconciliation ne l'avait pas emporté sur sa conviction que vraiment il fallait me laisser une place dans l'écriture.
Je voulais revenir à ce mot quand même d'écrivante. Dominique Bonnat, est-ce qu'être une femme qui écrit, c'est la même chose qu'être un homme qui écrit ?
Il me semble, quand on est devant sa page blanche, que ça n'a plus aucune importance. On a quelque chose à dire, on a envie de raconter quelque chose, de mettre en scène un événement, un personnage, ça n'a plus aucune importance. Aujourd'hui, en tout cas, il y a une liberté de l'écriture qui est entière. Et je ne crois pas du tout à l'écriture féminine par rapport à l'écriture masculine. Mais vous voyez parfois, puisque vous avez mis le sujet sur les pères et les filles, et ce sont deux filles, Vanessa Schneider et moi, qui écrivons, et deux pères qui étaient écrivains, quelquefois en écrivant je me dis, est-ce que mon père est présent dans ce que j'écris ? Comme une sorte de transmission presque inconsciente dans l'écriture. Et tout au long de ce texte du roi Arthur, je me suis demandé, est-ce que mon père est présent ? J'ai finalement pensé qu'il était présent dans ma manière de m'exprimer, parce qu'il était exigeant sur un point dans le domaine de la littérature, c'était sur la clarté. Il fallait être clair. Dès qu'on s'exprimait en embrouillant, en compliquant la pensée, il nous arrêtait et il nous demandait d'être plus simple. Donc je crois que j'ai hérité un petit peu de ça, c'est-à-dire dès que mes phrases sont un peu trop complexes, j'ai tendance à les revoir dans le sens de la clarté.
Donc vous avez quand même le regard de votre
père.
Donc
je me demande si Vanessa Schneider, elle aussi, sent cette présence paternelle dans l'écrit, mais dans ce qu'il y a de plus mystérieux de l'écrit, dans le jaillissement de la phrase.
Alors Vanessa.
Alors, moi, je ne pense pas, en tout cas pas dans la phrase, parce que justement c'était un sujet qui agaçait beaucoup mon père. Il me disait, toi tu arrives à écrire simple alors que moi je complexifie toujours.
Il en était même jaloux. Hein.
Oui, mais parce que lui il se réfugiait derrière beaucoup d'appareillages théoriques, aussi dû à sa formation de psychanalyste. Donc il avait toujours besoin de justifier ses pensées par tout un tas de lectures, par beaucoup de notes de bas de page, par montrer que tout ça était très étayé, très travaillé, très... Donc non, dans la phrase, je pense pas. En revanche, il était sur mon épaule tout le temps. Oui, j'avais l'impression qu'il me regardait tout le temps en me disant « Bon, bah, ça intéresse bon, là, parce que... » Donc c'était plus son regard.
Et maintenant qu'il n'est plus là, le regard est toujours là ?
Le regard est toujours là, je pense. Oui, parce que je continue à... En fait, ce qui était paradoxal et ce que je n'avais pas anticipé, c'est que j'ai passé beaucoup de temps avec lui pour écrire ce livre. Hein. Et là, depuis qu'il est sorti, beaucoup de temps à parler de lui. Je pense que parce que dans la vie réelle, on ne parle pas de son père tous les jours ou tous les deux jours. Et là, c'est vrai que depuis cette fin août, je passe un temps considérable à parler de mon père, ce qui lui aurait beaucoup plu, je pense. Ah, voilà. Il aurait été très heureux d'être... qu'on parle de lui et d'être au centre des discussions, parce que il y avait cette crainte chez lui et chez beaucoup d'hommes et de femmes en vieillissant, c'est de se dire et après qu'est-ce que je vais laisser quand on a écrit comme ça des dizaines de livres, est-ce que mes livres vont continuer à être lus, est-ce que je vais laisser une trace, est-ce que on a tous en tête plein d'auteurs qui ne sont plus lus du tout, qui ont été très lus à une époque et qui ne sont plus lus du tout, donc je pense que en écrivant sur eux, d'abord c'est une façon de continuer à les faire vivre ou à les faire revivre, et puis ça peut susciter aussi l'intérêt d'aller voir. Moi, quand Dominique Bonnat parle de son père, j'ai envie d'aller voir ce qu'écrivait son père.
Et vous, Dominique Bonnat, vous pensez que votre père aurait été fier de ce livre ?
Je l'espère. Ce que je crois, c'est que les pères ne meurent jamais. Pour moi, mon père reste vivant, même si, comme dit Vanessa Schneider, on ne parle pas toujours de son père. Il est présent, oui, il est toujours présent.
Il y a une chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante dans votre livre, parce que c'était une réflexion que je ne m'étais jamais formulée. Vous dites que les femmes de votre famille donc, ne travaillaient pas, elles étaient à la maison et considéraient que l'écriture n'était pas un métier. Et finalement, c'est peut-être le métier qui vous rapproche le plus d'elles, puisque quand on écrit, on reste à la maison, et je n'avais jamais vu ça sous ce prisme.
Oui, la littérature n'était pas du tout sacralisée dans ma famille. On plaçait pas du tout la littérature au-dessus de tout, sauf quand mon père écrivait. Parce que tout ce qu'il faisait, quoi qu'il fasse, il était toujours un roi. C'était comme ça. Mais pour moi-même, ma mère, ma grand-mère, mes tantes auraient préféré que je sois professeur ou institutrice. L'institutrice, c'était ce qu'elle préférait pour moi.
Un vrai métier.
Et un vrai métier. Donc, écrire leur paraissait de l'ordre, si vous voulez, de la broderie, de la couture, du tricot. Elles ont été très déçues, en un sens. Mais c'était pas un vrai métier, mais comme malgré tout j'avais l'air de m'y intéresser, elles ont pris le bon côté de la chose et elles se sont dit « elle restera à la maison comme nous et elle s'occupera des enfants », ce que j'ai fait en effet.
Vanessa Schneider, chaque semaine nous accueillons des libraires francophones dans l'émission. Aujourd'hui, direction la Belgique où c'est Aurélie Vergieux de la librairie Molière à Charleroi qui vous a lu. Bonjour Aurélie, vous avez beaucoup aimé le roman de Vanessa Schneider.
Bonjour Lydia, bonjour Vanessa. Oui, Vanessa, dans ce texte, vous vous adressez à votre père, à la deuxième personne du singulier, et au lecteur, ça donne forcément l'impression d'entrer dans votre intimité par la petite porte, comme si on lisait une lettre qui ne nous est pas adressée. Et cette lecture un peu coupable, elle plaira certainement à ceux qui ont connu votre père ou qui aiment son œuvre, et évidemment à ceux qui vous suivent, vous, mais ce n'est pas indispensable de vous connaître pour apprécier ce livre. car ce roman, c'est aussi et plus largement une lettre d'amour d'une fille à son père. Mon père, ce héros, malgré ses failles, son air bravache qui ne supportait aucune contrainte, aucune injonction, aucune intrusion, et au fil des souvenirs que vous égrenez, se dévoile le portrait d'un homme touchant, nonchalant et doux, alors qu'il pouvait parfois se montrer imprévisible ou cruel.
Et c'est justement cette ambivalence de caractère qui vous a particulièrement touchée.
Oui, c'est ce que j'ai le plus aimé dans votre livre. La personnalité contrastée de votre père n'est pas jugée. Vous acceptez ses contradictions parce que vous savez que personne ne laisse quiconque parvenir vraiment jusqu'à soi. On ne connaît jamais vraiment ses parents, ni encore un autre proche d'ailleurs. À leur mort, il arrive qu'on découvre deux des facettes insoupçonnées. Mais il faut quand même ajouter que s'il y a une dimension universelle à ce rapport père-fille, le vôtre de père était quand même le parangon d'une famille un peu foutraque. Je ne reviens pas qu'il vous ait dit, quand vous aviez rapporté un mauvais bulletin, « Tu pourras toujours être mannequin chez Olida ». Et Olida, c'est une marque de saucisses sous vide. Sans le connaître, je pense qu'il aurait aimé ce livre que vous avez écrit sur lui. Malgré les blessures, on ressent l'intensité de l'amour que vous portez à cet homme qui a tellement répété « Je m'en fiche, j'ai la peau dure, ça fait pas mal », que vous avez fini par le croire insubmersible. Insubmersible, c'est comme ça qu'on les aime, nos papas. Et plus encore lorsqu'ils se tournent vers nous quand ils finissent par vaciller.
Et Aurélie, je crois que vous aviez une question à poser à Vanessa Schneider.
Oui, Vanessa, vous saviez que vous alliez écrire sur votre père, mais j'imagine que ce n'était pas envisageable de son vivant. Et lui écrire de manière posthume a libéré votre parole. Je me demande si le fait d'écrire sur lui alors qu'il est décédé vous l'a rendu plus accessible, et si ce faisant, la nature de vos sentiments pour lui ont évolué.
Alors merci d'abord pour tous ces mots. Oui, c'est clair que j'aurais pas pu écrire sur lui de son vivant, parce que j'ai... Mais comme je n'aurais pas pu, dans un précédent livre sur ma famille, écrire sur ma cousine de son vivant non plus, sur ma cousine Maria Schneider, je trouve ça très très compliqué. Moi, je suis souvent extrêmement mal à l'aise quand je lis des livres qui me semblent être des règlements de compte, qu'ils soient cachés ou pas, d'être pris un peu en otage... au sein d'histoires familiales ou amoureuses, ou c'est des choses qui me mettent très mal à l'aise, et donc j'aurais pas, et je n'écris pas pour blesser. J'ai cette angoisse de je veux pas blesser à travers mes livres. Et forcément, quand on écrit sur quelqu'un de vivant, on prend le risque de blesser, pas forcément là où on s'y attend d'ailleurs, mais il y a toujours quelque chose qui peut blesser, donc j'aurais pas pu le faire de son vivant, évidemment. Si on faisait un peu de fiction, si mon père était mort il y a 20 ans, j'aurais pas du tout écrit le même livre. Le livre que j'ai écrit à 50 ans passés n'aurait pas été le même que celui à 30 ans ou à 40 ans, parce que ces années m'ont aidé, à travers tout un tas d'outils, à apaiser mes relations avec mon père, à lui pardonner, à excuser beaucoup de choses. J'ai été dans ma vie très en colère contre mon père, mais là j'ai eu cette chance de pouvoir écrire à un moment où je n'étais plus en colère. Et je pense que c'était ça assez indispensable. Et c'est vrai qu'en me replongeant dans son enfance, qui était particulièrement effroyable pour le raconter, en me replongeant dans son histoire, ça me l'a attendri. Évidemment, il y a des moments où j'avais même les larmes aux yeux, j'avais envie de le prendre dans mes bras, mon petit papa, de me dire qu'il était quand même passé par des choses très très difficiles. Donc même s'il n'a pas su être un père toujours aimant, s'il a pu être terrible parfois dans ses relations avec ses enfants, oui, ça me l'a rendu plus doux, plus tendre.
Merci Aurélie. Dominique Bonnat, Vanessa Schneider, on parlera dans un instant du merveilleux et on entrera plus en détail dans votre livre, Dominique Bonnat, car vos pères ont un point commun, ils aimaient raconter des histoires, vous êtes devenue autrice, romancière, donc c'est pas anodin, et j'aimerais qu'on aborde cette question de la transmission quand on revient.
Viens, suis-moi, je connais une route d'émail qui mène au pays de perles et de corail. Je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Viens jouer. saut de mouton sur les vagues. Je vais te faire descendre dans un ciel de sable.
C'était France Gall, Bébé requin, et nous sommes toujours en compagnie de l'académicienne et romancière Dominique Bonnat et de la romancière Vanessa Schneider. C'est l'heure de l'atelier d'écriture qui est aussi un atelier de lecture aujourd'hui.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, au livre, etc. Lilia Hassen.
Alors Dominique Bonnat, vous avez choisi d'appeler votre livre « Le roi Arthur », sachant que votre père s'appelle Arthur Comte, comme les contes de fées. Vous auriez pu aussi appeler votre livre « Contes de fées » d'ailleurs. Vous y avez pensé? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui raconte ce titre « Le roi Arthur » ?
Le roi Arthur, au fond, m'a paru résumer la personnalité de mon père, mais résumer aussi le climat où s'est déroulée mon enfance. Parce que donc cette enfance était dans le sud, c'était une enfance au soleil du midi, et en même temps, ce père s'appelait Arthur, prénom breton, d'origine celtique, et ressemblait finalement à ces chevaliers du Moyen-Âge en armure, montés sur des chevaux qui vont d'un château à l'autre, au milieu des fées et des lutins, parce que les histoires qu'on nous racontait, c'était ça. C'était les unes tirées du folklore paysan régional, les autres tirées de ce vieux fond de récits très anciens qui ont formé la quête du Graal. Et mon père était très friand de ces légendes. Et nous étions tout petits, nous avions 4 ans, 5 ans, 6 ans, et à la fin des repas, qui étaient toujours expédiés à grande vitesse et qui se déroulaient en silence, tout d'un coup, il entrait dans un seul en scène et il se mettait à raconter l'histoire de Lancelot, de la reine Guenièvre, etc. Et bien sûr, le roi Arthur était au-dessus de tous. Et donc, c'est pourquoi ce surnom à la fois affectueux, un tant soit peu ironique, qu'il a eu même dans la sphère politique, pas seulement en famille, et qui résumait assez son allure, son autorité.
Et c'est de là que vous vient votre passion pour les chevaliers, parce que même dans les figures littéraires qui vous intéressent, que ce soit Kessel ou Gary, c'est quand même des figures chevaleresques.
Ah oui, mon dernier livre, Les Partisans, effectivement, sur Joseph Kessel, j'ai parlé de Romain Gary, bon, ce sont des chevaliers des temps modernes, si on veut. Oui, ces grandes figures, j'aime bien les grandes figures, parce que tout d'un coup, avec eux, le monde est plus vaste, le monde est généreux, on peut le parcourir à grande guide, et de mon petit monde à moi, un peu plus fermé, un peu plus craintif, tout d'un coup, voilà, les fenêtres s'ouvrent, et j'ai toujours aimé cette dimension-là. Pas seulement dans le Moyen-Âge, hein, vraiment dans toutes les époques. Mais bon, j'ai été formée avec cet imaginaire. Et je crois toujours aux fées d'ailleurs, aux fées et aux sorcières. Et je vois souvent l'aspect magique de la vie, les raisons cachées, les sens mystérieux des choses.
Alors justement, j'aimerais qu'on parle du merveilleux. Et pour cela, j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre, Dominique Bonnat.
C'est vous qui l'avez choisi, chère Lilia.
Oui, tout à fait. Vous n'auriez pas choisi celui-ci ?
Non, pourquoi pas.
Moi, je l'aime bien.
Il y a plusieurs manières de succéder. Par le sang, par la terre, mais aussi par une histoire ou par des histoires qui deviennent les vôtres, par toute une suite d'influences, conscientes ou plus souvent inconscientes, qui forment comme une matière première. Il en va ainsi des contes et légendes qui sont une argile nourricière. Il me semble que je baigne encore dans ce placenta et ne peux m'en défaire. Mon grand-père maternel m'avait reproché un jour d'avoir choisi un métier, écrire, qu'on ne peut pas transmettre à ses enfants. De quoi veux-tu qu'ils héritent ? De droits d'auteur qui s'amenuisent avec le temps ? Il était allé droit au but. Il incriminait ma légèreté à ne pas voir la suite ou à me vouloir, moi, ma seule fin. Il m'a fallu du temps pour comprendre que grand-père se trompait. Mais un jour, je l'ai su. D'Arthur Comte, je tiens le plus bel héritage. Un legs immatériel, presque abstrait, qui a la consistance d'un nuage. Il m'a transmis sa foi dans le merveilleux.
Moi, je l'aime beaucoup, cet extrait. Vous écrivez donc au sujet de votre père, il m'a transmis sa foi dans le merveilleux. Quelle est votre définition du merveilleux, Dominique Bonnat ?
Le merveilleux, c'est ce qui sort de l'ordinaire. C'est ce qui transforme le quotidien morose et gris en quelque chose d'enchanté. Le merveilleux, c'est un univers parallèle, aussi vrai que le vrai. Mais qu'il faut savoir découvrir peu à peu. Et malheureusement, la vie se charge de nous enraciner, de nous tirer vers la terre. Et le merveilleux, c'est de pouvoir s'envoler.
C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que vous aviez perdu la petite fille en vous.
Oui,
en cours de
parce
route.
Que la petite fille, elle rêvait facilement, elle rêvait toute la journée. Dès qu'elle avait un moment, elle ouvrait vite un livre pour trouver une évasion. Mais je continue à faire ça, finalement.
Vous avez placé en exergue de votre livre André Breton, pape du surréalisme, pour qui le merveilleux était un absolu. Je me suis dit que ce n'était pas un hasard. Et j'ignorais surtout que vous aviez écrit un mémoire intitulé « Les fées et les sorcières dans la littérature des XIIe et XIIIe siècles ». Et ce qui est fou, c'est que ce mémoire, sans le savoir, résonnait avec votre père, puisqu'il avait lui-même choisi comme sujet de maîtrise le merveilleux dans les romans du cycle breton.
Oui, on ne se refait pas.
Incroyable,
il a fallu que je mette mes pas dans ceux de mon père, presque d'ailleurs sans le savoir et instinctivement, parce que j'étais tellement nourrie de ces légendes celtiques que lorsque je suis arrivée à l'université et qu'il a fallu choisir une unité, une spécialisation, au lieu d'aller, comme toutes mes amies, vers le XXe siècle, vers Antonin Artaud, non, il a fallu que j'aille vers ces vieux auteurs. Mais ces vieux auteurs, c'est quand même l'enfance de la littérature. C'est toute la jeunesse de la littérature. C'est Chrétien de Troyes est le premier romancier en français de toute la littérature. Donc il y avait ce côté naïf, c'est la littérature en train de naître. C'est très joli, il y a de très très jolies histoires.
Quelle place ont joué les contes de fées dans votre vie, Vanessa ?
Alors non, moi les contes de fées n'ont joué aucune place dans ma vie pour la raison qui peut paraître un peu curieuse à nos auditeurs, c'est que quand j'étais enfant, mes parents, mon père en particulier, étaient embrigadés, je pense qu'on peut le dire comme ça, dans un groupuscule maoïste, donc très gauchiste, et qui interdisait toutes ces lectures dites bourgeoises, qui plaquaient des schémas et qui étaient censées plaquer des schémas dans les esprits des enfants. Et donc, nous lisions les histoires du président Mao.
Il y avait quand même l'ours Polka.
Donc, il y avait donc toute cette. Oui, la littérature. Autorisée à la maison était celle, en effet, issue de la Chine populaire. Bon, ça n'a pas duré trop longtemps, mais après, en fait, j'ai embrayé sur la littérature classique. On n'a jamais été, je dis on parce que j'ai un frère qui a presque le même âge que moi, mais on n'a jamais été. En fait, il y a eu un espèce de. On a sauté directement dans les classiques. Quoi. Voilà, je suis passée des histoires de la Chine populaire à Alexandre Dumas. Mais il y avait ce rituel du samedi soir, comme nous n'avions pas de télévision non plus. qui étaient des histoires de l'ours polka, un ours que mon père avait inventé. Donc c'était un conteur aussi, mais pas à la façon d'Arthur Conte, c'est-à-dire qu'il ne racontait pas, c'était pas la tradition orale où on reprend des mythes et des histoires qui circulent depuis des siècles. Mais il avait inventé un ours qui s'appelait Polka, auquel il arrivait tout un tas d'aventures, et il nous racontait les histoires. C'était un moment très précieux, hein, dont je me souviens avec énormément de tendresse. On trépignait, on l'appelait, on disait Polka, Polka. Il faisait semblant il disait oh non, ce soir Polka est fatigué, il viendra pas. Il y avait une espèce de confusion entre le personnage et lui.
C'était aussi une manière de vous faire passer des messages, en fait, cet ours.
Oui, et c'était, je pense aussi, maintenant, alors c'était un moyen de connecter avec nous sur le monde de l'enfance, puisque mon père, n'ayant pas eu vraiment de parents, il n'a pas eu de père et il a eu une mère très déficiente, comme on dirait aujourd'hui. Mais, donc il savait pas trop comment faire avec les enfants. Donc en fait, raconter une histoire et jouer aux ours, c'était quelque chose qui lui permettait de communiquer avec nous. Et puis il y avait aussi une part, moi j'ai jamais vu mon père aussi heureux que quand il racontait ses histoires de sa pure invention, parce que je pense qu'il redevenait l'enfant qu'il avait jamais été. Comme il n'a pas pu être un enfant, parce qu'il a été confronté très très vite aux duretés de la vie, avec une famille qui avait subi une très grande décadence sociale, de pauvreté, une mère alcoolique, une famille vraiment de chaos, il y avait, je pense, ce manque d'enfance. Donc il avait besoin de retrouver, à travers les histoires, c'était redevenir un enfant. Et il continuait même avant de mourir, hein, il continuait à signer ses lettres, il dessinait des ours comme les enfants dessinent des ours, avec les petites oreilles rondes,
le nez rond de l'ours. Et là, il n'y avait pas le livre rouge, quand même.
Non, ça n'a pas duré trop longtemps. Je parlais du livre rouge pour expliquer qu'en effet, on n'avait pas, on lisait pas les contes traditionnels.
Voilà. Mais pourquoi, Dominique Bonnat, il faut quand même, quand on peut, lire les contes de fées aux enfants?
Écoutez, aux enfants, on peut lire les contes de fées, on peut lire tout autre chose, mais l'important, c'est, me semble-t-il, c'est de lire. Dès qu'ils sont petits, je trouve que le moment où on est avec l'enfant et autour d'une histoire, on communie dans je ne sais pas quoi, on communie peut-être simplement dans l'affection, dans la tendresse, dans le... Voilà, tout d'un coup, la vie s'arrête, les corvées de la vie, etc. Et là, entre la mère et l'enfant, le père et l'enfant, vraiment, il y a une intimité qui se crée. Et on n'a pas besoin d'expliquer ça. On n'a pas besoin de dire même je t'aime ou je ne sais pas. Non, rien. On ne dit rien. On se contente de raconter l'histoire et la voix enveloppe l'enfant. En général, d'ailleurs, on lit avant de dormir. C'est le moment où on va éteindre la lumière, fermer la porte, laisser l'enfant tout seul dans le noir. C'est un moment très difficile pour les enfants petits. Et ce cadeau de l'histoire qu'on leur fait, il reste avec leur petite histoire et ils vont s'endormir avec.
Ils vont vers les
rêves. Et je crois, pour moi, c'est vraiment capital. Et en plus, s'il y a une chance de pouvoir donner envie à l'enfant de retourner vers le livre un peu plus tard, c'est là que ça se fait.
Vous avez d'ailleurs écrit des histoires pour enfants, Dominique Bonnat, ça s'appelle Personne ne m'aime, ça vient de sortir chez Flammarion Jeunesse. Et j'ai pensé que c'était sans doute inspiré aussi de votre mémoire sur les fées et les sorcières au XIIe et XIIIe siècle, parce que autant à l'époque vous réhabilitiez la sorcière, et là vous réhabilitez les chauves-souris, les méduses et les araignées.
Oui, c'est ce qui explique le titre « Personne ne m'aime », parce qu'en effet, personne n'aime les araignées, personne n'aime les méduses, ni les chauves-souris. Et ces petits animaux que les enfants ont toujours envie ou d'écraser, ou de détruire, ou de torturer, il me semblait qu'il fallait leur donner un petit peu d'air, un peu leur donner la parole, et puis leur créer une petite histoire avec un enfant qui tout à coup les regarde autrement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça tout d'un coup. Peut-être.
C'est une proposition de votre part.
C'est un retour. Justement, je parlais de la petite fille que j'avais perdue. Il semble qu'elle n'ait pas complètement disparu malgré tout. Et puis, alors, contrairement à Vanessa, moi, j'ai une approche très naïve du conte de fées. C'est-à-dire, je vois pas du tout l'environnement sociaux, psychologiques, etc. Non. Je vois le conte pour lui-même, pour l'histoire. Presque poétique, vous voyez, pour moi c'est une forme de poésie, le conte de fées.
Dominique Bonnat, Vanessa Jeder, on se retrouve dans un instant, mais d'abord on écoute O'Kiss et Many Days Magnum.
Petits artistes, on tire de bien grosses ficelles. Là c'est parti, je deviens je sais pas qui, mais au moins c'est officiel. Petit rigolo, grand triste, futur apprenti beatmaker. Avait senti pousser les centristes et les charcutiers traders. Insulte les fakes, ajoute les faits, ajuste les faders. La vie c'est une pute, mais elle peut pas trop me parler de ses problèmes, c'est trop bête. Là je peux plus verser une thune, mais chat là je fais pas de clip ou en fait c'est une pub pour Citroën. Je l'ai su en dressant le shit coupé, ils veulent voir ça, j'en blazer. Dans le foot depuis coupé, je m'en fous de l'argent des glazers. La vie c'est facile quand tu crois que tu peux pas débarrasser d'elle. Je trouve y'a trop de nazis, mais y'a pas assez de haine. Jamais je foire une balade, excuse tu me parlais, je sens pas la gravité. Juste, j'avance dans mon corps et juste j'ai plus de balafres. Bien ou bien, ça va?
Ouais, super, mais j'ai pas quitté.
Tu fais quoi là? Moi je place pour un pote. Son blast c'est Many Days et c'est un truc de malade.
La moustache de Magnum. Couch là, ça sort le Magnum. Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache. La moustache de Magnum. Couch là, ça sort le Magnum. Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
J'suis la cinquième étoile de Scolari. J'ai 99 dans Konami. Frappe d'Adriano. O'Kiss Mani, on plie comme Ori. Gami tient la rime gratos. Des gains d'anciens tellement impeccables. Prince des régulars, des ordinaires. Rap comme personne. Classe comme Bergkamp à Saint James Park. J'suis Boldy James sur du Portichet. Enfant du vinyle et de la Motown. Dell Honor, ça all eyes on me. J'entends leur zumba lamentable. C'est la mota derrière un cardioïde. Façon puzzle, on t'éparpille. Flingue en silence comme Rowan Atkinson. Verbal kin, base l'artiste. Baloche à l'air, ils ont même pas de kilt. Monde connecté, mais y'a même pas de kit. Y'a pas de Pontiac Firebird. Quand je mets le contact, le Firebird dans mes batteries. Que des panenka mes pénalty.
Magnum.
La moustache de Magnum.
Magnum.
Couch là, ça sort le Magnum.
Magnum.
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum.
La moustache de Magnum.
Magnum.
Couch là, ça sort le Magnum.
Magnum.
Magnum après Magnum. Bout de glace sur la moustache.
Magnum.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission, etc. Nous sommes toujours en compagnie de la romancière Dominique Bonnat et de Vanessa Schneider, romancière aussi. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Au livre, etc. Lilia Hassen.
Et nous allons en Suisse pour retrouver Alexandre Dimitrievitch de la librairie Delphica à Genève. Bonjour Alexandre.
Bonjour Lilia.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un autre livre sur le lien parent-enfant, le récit d'un fils sur sa mère, qui est pour lui presque une inconnue. Il s'agit d'Une mère en fuite, roman de Mishka Assayas, publié chez Grasset.
Oui, si j'ai choisi de vous parler de ma lecture de ce livre,
ce n'est pas tout à fait un hasard. D'ailleurs, je dirais même qu'il n'y a jamais vraiment de hasard lorsqu'on choisit un livre à la rentrée, car il y a toujours une affinité naturelle qui nous rapproche d'un auteur avant même de l'avoir lu, surtout dans le cadre de récits comme celui-ci. Ici, ce qui m'a attiré dans ce texte, ce sont les racines que j'ai en commun avec Miska Assayas, des racines qui se sont nouées quelque part sur les bords de la rivière de la Tisza, en Hongrie, avec surtout cette même expérience des absences qu'il évoque tout au long de ce livre, celle de parents trop absorbés par leurs métiers respectifs. Bref, en ouvrant Une mère en fuite, j'ai cru reconnaître quelque chose de moi, quelque chose que j'ignorais peut-être, parce que je le tenais aussi à distance. Une sorte d'éducation européenne, de rigueur morale, en fait une forme de pudeur hongroise héritée des générations d'avant que nous avons en commun, celle dont ma propre mère a cherché à s'extraire pour sa part par la littérature. Je dirais donc que c'est un récit que j'ai aimé lire pour la proximité qu'il instaure avec le lecteur et surtout pour la justesse avec laquelle il parle de l'enfance et des liens parfois distendus entre parents et enfants.
Et malgré cette proximité, Alexandre, le livre de Miska Assayas, et c'est ce qui est beau aussi, possède une forme d'étrangeté.
Oui, paradoxalement, plus j'avançais dans ce récit, plus ce sentiment de proximité se dissolvait. D'abord parce qu'il y a, une question d'éducation très bourgeoise propre à une vague d'immigration hongroise qui a précédé celle de mes grands-parents, qui était plus massive et prolétaire en 1956. Mais surtout parce que Miska Assayas a choisi consciemment de ne pas mener une enquête historique pour combler les trous de mémoire des familles hongroises en général. Il préfère nous parler d'autre chose, de ces personnes étrangement absentes, même en étant présentes dans nos entourages respectifs. Et parce qu'elles sont belles, ce que je retiens à la toute fin de ce livre, ce sont ces quelques pages sur la Hongrie, ce pays fantôme à demi-réel, un peu mystérieux à mes yeux, et dans lequel la mère de Miska y avait connu le bonheur avant d'en être chassée. L'auteur évoque brièvement les paysages de la Pusta, le déclassement, la vie à Budapest, la noblesse perdue. Il assume que toutes ces images qui lui restent sont peut-être inventées et que ça n'a aucune importance, car on comprend que la mémoire, pour lui, ce n'est pas une succession de dates, mais bien la trace d'émotions encore palpables.
Et justement, quelles sont les images qui vous restent à vous ?
Entre deux pages, il y a comme un surgissement de détails domestiques qui m'ont beaucoup plu. Il y a les pâtes de fruits, les pinces à linge colorées, les saureuses à salade, le respect pour les docteurs, les quelques mots en hongrois aussi. C'est cette approche du souvenir qui m'a beaucoup touché, car elle rejoint dans une certaine mesure ce rapport que j'entretiens sans jamais vraiment avoir su le nommer avec ma propre histoire. Comme si le passage de la Hongrie à la France, ou dans mon cas à la Suisse, ne pouvait se faire qu'avec cette sorte de mélancolie familière, cette tristesse hongroise que l'auteur décrit si bien. En conclusion, je dirais qu'Une mère en fuite, c'est un récit très très personnel, qu'il faut lire pour comprendre que le mystère qui entoure nos parents est en réalité parfois incompressible et qu'il faut simplement apprendre à l'accepter. C'est une très belle leçon de vie.
Merci beaucoup Alexandre. Le livre s'appelle donc Une mère en fuite et c'est publié chez Grasset. Avant de se quitter, très rapidement, on a beaucoup parlé de vos pères, Vanessa Schneider et Dominique Bonnat. J'aimerais qu'on dise un petit mot de vos mères. Très, très rapidement, Dominique Bonnat, vous écrivez au sujet du rapport que votre père avait à votre mère. Sa vie durant, il l'a gardée toute à lui, enfermée dans un amour possessif, égoïste et passionné. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que ma mère était dévouée, amoureuse de mon père, et que mon père a profondément sans doute aimé ma mère. Mais il l'aimait dans cette dimension du dévouement. Quand elle a disparu, sa vie s'est arrêtée. Je veux dire, la vie de mon père s'est arrêtée. Il a mis 12 ans avant de mourir à son tour, mais le jour de sa mort, il a vissé son stylo à encre, ce qui était un geste tout à fait symbolique, mais définitif. Le stylo est resté sur la table, et lui qui avait écrit depuis l'âge de 25 ans jusqu'à plus de 80 ans, ça a été terminé. Voilà, il est resté 12 ans sans écrire, enfermé dans l'appartement. Il a attendu que le destin lui envoie un signal pour partir à son tour. C'est assez étonnant, mais j'ai encore cette image vraiment de ma mère, le regard bleu de ma mère fixé avec adoration sur cet homme de sa vie.
C'est beau, c'est un conte de fées.
C'est un conte de fées.
Merci beaucoup Dominique Bonnat, merci Vanessa Schneider. On rappelle vos livres, La peau dure de Vanessa Schneider, publié chez Flammarion. Un récit d'une rare justesse qui dit à la fois la blessure et la gratitude, le portrait d'un père flamboyant et d'une fille en quête d'apaisement. Et cette transmission secrète, celle des mots, de la liberté et d'une peau dure qui protège autant qu'elle empêche. On recommande également votre album Jeunesse, Personne ne m'aime, Dominique Bonnat avec Charlotte Plantin. Et votre livre, Le roi Arthur, paru chez Gallimard, un texte dense où vous faites revivre la voix de votre père, mais aussi tout un monde disparu, celui d'une France méridionale, d'un accent, d'une mémoire et d'une foi intacte dans le merveilleux. Merci également à nos libraires du jour, Aurélie Vergieux et Alexandre Dimitrievitch, et à toute l'équipe. Lilian Allôme à la réalisation, Fabrice Desmaz à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle que Livre etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.